Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Moutier et vous écoutez un tout nouvel épisode du podcast Retour en force. Ça fait quelques semaines que je m'étais absenté. Je me suis ennuyé de mes collaborateurs, mais là, je suis là et je fais un retour en force à l'émission. Et je suis en compagnie de Pierre-Luc Monjon. Salut Pierre-Luc.
Hey, salut Étienne, comment vas-tu?
Ça va très très bien. Toi?
Ben oui, ça va super bien.
Ben oui. Cool. On t'a entendu un petit peu? Je ferai pas de montage, moi. Fait qu'on va assumer le fait qu'on t'a entendu parler un petit peu au début de...
Ouais, je pensais pas qu'on allait genre avoir une microseconde ce qu'on allait m'entendre. Finalement, j'avais juste oublié d'éteindre ma musique, mais voilà, c'est fait.
C'est des choses qui arrivent. On t'en tiendra pas rigueur pour le reste de l'épisode. Ah, Thomas Lafond, qu'on entend, qui est comme le deuxième Johan Carrière du podcast, on l'entend sur tout, à peu près tous les jours en podcast au Club École. Ça va, Thomas?
Pas très bien.
Cool, cool, cool. Yvan Carrière, hey, également, allô. Est avec nous. Salut, ça va?
Top shape, comme diraient nos amis anglophones.
Yes, hey, on se garoche directement dans nos sujets de la semaine. C'est très varié. On a énormément de choses dont on va parler. Et on va commencer avec Pierre-Luc qui veut nous faire un peu une mise à jour de ce qui se passe avec le club de foot Montréal.
Ouais, parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses en l'espace d'une semaine. Je pourrais pas dire c'est quand la dernière fois qu'il y a autant de nouvelles ou de rumeurs qui s'est passé au cœur de Club de foot Montréal ou de l'Impact de Montréal auparavant, mais il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de nouvelles qui sont sorties. C'était véritablement une tempête au sein de l'organisation. Donc, pour commencer, on a eu la rumeur de transfert de Thierry Henry. On a eu le dévoilement du maillot et puis on a eu un des entraîneurs qui est parti. Ça fait qu'on va essayer de démêler ça un petit peu. Puis si on veut rester concept avec la tempête, ben on va pelleter l'entrée. Donc, tout d'abord, on rapportait dans les médias anglais que Thierry Henry aurait pu signer à Bournemouth. Donc, c'est un club anglais qui évolue en deuxième division. Cette situation-là est survenue 24 heures avant le dévoilement du maillot et ça l'a quand même fait froncer les sourcils de plusieurs partisans. Finalement, bonne nouvelle, on a appris au courant du week-end que Bournemouth avait signé Jonathan Woodgate comme nouvel entraîneur. Ça fait qu'au grand plaisir des partisans de Club de foot Montréal, j'allais dire l'Impact.
Ouais, on ne va pas tout de suite.
On va pas s'habituer tout de suite. Ben, Thierry Henry, finalement, va rester à Montréal pour cette saison, du moins pour l'instant. Mais bien que Thierry Henry garde ses fonctions d'entraîneur, bien, Patrice Bernier, lui, a mis une croix sur son poste d'entraîneur adjoint de l'équipe principale. Donc, il retourne à TVA Sports en tant qu'analyste pour les matchs de soccer du club. Puis, la décision de Patrice Bernier de quitter CF Montréal est basée sur des raisons familiales. Puis, c'est une décision qui est respectée par la direction du club, bien évidemment.
Oui, vas-y, continue avec Patrice Bernier. J'avais juste un petit quelque chose à rajouter.
Okay. Je te remets une petite phrase, puis je te laisse y aller après. Dans le fond, l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal va conserver ses fonctions au cœur de l'académie, notamment avec les 23 ans et moins.
Ah oui, je suis désolé, c'est ça que je pensais que tu avais terminé sur Patrice Bernier, ce que je voulais dire. Il reste quand même dans l'organisation du club. Il ne quitte pas, il ne claque pas la porte de l'organisation.
Il reste quand même dans le paysage, là. Il va être à TVA, un peu comme qu'est-ce qu'il faisait, je pense que c'était en 2019, là, à ses débuts à la télévision. Donc, c'est un retour en force pour lui.
Oh wow, bien joué.
Fantastique, merci beaucoup. Et puis, c'est ça, au milieu de ces événements-là, ben il y a le maillot qui a été dévoilé. Donc, je vais pas aller vraiment dans les détails de qu'est-ce qui s'est passé, parce que je présume que tout le monde qui nous écoute, a probablement vu le maillot, mais si c'est pas le cas, il est principalement noir, il y a quelques petites lignes bleues, puis il y a un petit détail quand même intéressant, c'est qu'il y a des flocons aux allures du logo qui sont pressés sur le maillot, ce qui est quand même une touche plutôt originale. Puis la grande nouvelle de ce dévoilement-là, les gars, vous êtes pas prêtes, là, mais il me semblait que c'était juste quand on jouait au soccer U10, U11, qu'on portait les maillots dans les shorts. Mais Samuel Piette porte encore son maillot dans ses shorts. Je termine sur cette note positive, là, messieurs.
Ah oui, c'est sa classe, c'est sa signature à Samuel Piette.
C'est son trademark, c'est ouais. Ça.
Mais qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce que c'est Samuel Piette avec le chandail dans les shorts ou Samuel Piette qui prend un bain torse nu dans la neige, comme on a vu dans la vidéo de dévoilement du maillot? On peut en parler un peu de ce maillot-là. Parlons un peu de mode. Pierre-Luc, tu l'as décrit on donne une note sur 10 au maillot. Tu donnes quoi?
Je ne suis pas un puriste, mais le maillot, autant simple qu'il soit, me convient entièrement. Je pense que la seule chose qui me dérange, mais que je ne suis pas habitué comme tout le monde, c'est que ben, ce n'est pas l'Impact de Montréal. Il faut qu'on s'habitue à ce que ce soit un nouveau club. Mais en tant que tel, le maillot, super professionnel, super moderne, honnêtement. Je ne suis pas payé, puis je n'ai pas eu de t-shirt en cadeau. Ça, c'est un autre débat qu'on a parlé sur Twitter cette semaine.
Grosse fatigue.
Mais j'y donnerais quand même un bon 9 sur 10. Sérieusement, je trouve que les petits flocons qui sont pressés sur le maillot, c'est tellement subtil, mais c'est tellement ça qui vient faire la différence. Moi, honnêtement, je suis très satisfait avec ce que je vois, mais comme je vous dis, le logo, c'est encore de s'y habituer, là.
Mm-hmm. Pour les flocons, là, moi, ma grosse peur, c'est que ça a juste bien paru dans le photoshoot, puis que en pratique, ça soit un peu mollo. Mais j'aime vraiment l'idée, là, puis on l'a vu, tu sais, je pense que Miami, eux, c'est des palmiers. Mm-hmm. Le CF Montréal se retrouve avec des flocons, je trouve ça vraiment très, très cher, mais j'ai peur que ça apparaisse pas. Johan, on en a parlé un peu les deux du maillot. Qu'est-ce que sur 10, qu'est-ce que tu lui donnes, toi qui n'es pas nécessairement un fan de soccer? Là?
Ouais, écoute, moi j'ai comme là, je regarde ça là. Oh. Je te dirais un 6,5. Okay. J'aime vraiment le bleu puis le noir. Là, je trouve que ce sont deux couleurs qui vont très bien ensemble. La teinte de bleu est vraiment parfaite. Les flocons sont géniales. Mais moi, le bleu, je l'aime trop pour la quantité qu'il y a. Là. J'en aurais pris peut-être un petit peu plus. Puis je sais que c'est ça le soccer. Je sais que c'est comme ça que ça marche sur les chandails. Mais le gros logo BMO blanc en plein milieu, je suis pas capable.
Mm-hmm.
Genre, tu sais, s'il avait juste échangé, s'il avait juste mis le logo en blanc, au lieu de mettre le gros cercle blanc puis le logo noir, déjà là, ça aurait été mieux. Mais là, ça marche pas. Là. J'aime pas ça. Puis le chandail blanc aussi, le chandail, chandail blanc qui a essentiellement l'air d'un gros flocon de neige, ça aussi, pour moi, ça fait perdre des points, malheureusement.
Le chandail blanc, c'est le maillot de l'année passée. Ils ont juste mis le nouveau logo. Ils font ça à chaque année. Ils vont renouveler le maillot principal. Ou, en fait, ils vont renouveler un maillot puis ils vont garder l'ancien. Donc, c'est leur stratégie. Mmh.
On alterne aux deux ans. Thomas?
Moi, je vais y aller avec un 7,5.
OK.
Je sais que vous aimez bien les flocons, mais moi, ils me dérangent beaucoup. Parce que le soccer... Je comprends que le soccer, on est au Canada, puis il fait frais, puis il y a beaucoup de neige, mais le soccer, c'est un sport d'été, en tout cas, la MLS, ça l'est. Et, ben, à ce que je sache, il n'y a pas de neige d'été. Donc, je vois pas le point de le mettre ici en évidence, ce logo. Aussi, le logo de BMO, je comprends que les sponsors au soccer, c'est à l'avant-plan du chandail. Par contre, je trouve qu'il est trop. Le logo de CF Montréal, on le remarque presque pas comparé au logo de BMO. Mm-hmm. Ça me dérange un peu.
Oui. Si t'aimes pas le flocon, on te demandera pas ton avis sur le rebranding en général.
Mais
sur le logo at large. Je vais y aller. Moi également, là, je m'institue vraiment entre Johan et Thomas. Moi, j'aurais donné un 7 sur 10 au maillot. Il est pas parfait. Je le trouve, tu sais, peut-être un peu trop simple. Moi, je suis vraiment un fan des chandails lignés avec des bandes verticales. Donc, là, que ce soit le bleu et le noir. Je pense que le 2014 va être très, très dur à battre avec le collet également. Là. Mais moi, j'aime bien les flocons. Puis c'est vrai là, que le gros logo BMO, je pense que ça manque un peu d'équilibre. Je pense qu'on était mieux avec le logo au complet, là, pas juste seulement l'espèce de cercle de BMO. Mais somme toute, bon, je pense pas que c'est un échec là, le maillot. Puis il semble un petit peu mieux accueilli que le rebranding en général, si on se fie à Twitter et Facebook, assurément. Merci PL pour cette mise au point CF Montréal. Il y a des choses qui se passent, il y a des signatures également. Ça, on va y revenir quand la saison va commencer, assurément, un petit détail de l'effectif. Mais autour de l'effectif, il passe évidemment beaucoup de choses. Johan, on se tourne dans le tennis. Bon, je vais faire une plug éhontée, on va parler d'un bout à l'autre. Johan, tu es allé avec tes prédictions à d'un bout à l'autre de l'Open d'Australie, puis tu as visé juste, mon ami.
Hey, j'ai failli passer pour une espèce de devin en disant 6-4, 6-2 ben pour la victoire de Naomi Osaka chez les femmes. Ça s'est finalement fini 6-4, 6-3. Donc là, à un jeu presque de la prédiction parfaite. Oui, donc l'Open d'Australie qui s'est terminé, là, puis ça a été deux victoires. Là. Bon, j'avais prédit des victoires de Novak Djokovic et Naomi Osaka, et ça a été des victoires assez convaincantes là, dans les deux cas. Djokovic 7-5, 6-2, 6-2. Difficile de faire mieux face à un Daniil Medvedev qui était vraiment sur une énorme lancée. Mais bon, Djokovic, il est juste pas battable, puis c'était là en remportant ce titre-là, il est maintenant le deuxième joueur de tennis à avoir gagné le même tournoi du Grand Chelem le plus de fois. Donc c'est 9 titres aux internationaux d'Australie, son deuxième au total derrière les 13 titres de Nadal à Roland-Garros, et il surpasse les 8 titres de Roger Federer à Wimbledon. Pour Naomi Osaka, ben c'est un quatrième titre du Grand Chelem. Déjà, elle a seulement 23 ans. C'est très jeune pour une joueuse de tennis. Et elle est invaincue, là, comme je le mentionnais à ton podcast, à partir du moment où elle passe les quarts, où elle se rend au quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. 12-0 maintenant dans les phases importante, là, si on veut, d'un tournoi majeur. C'est extrêmement impressionnant. Et ces deux victoires là, qui, comme je l'ai dit, sont assez similaires par le fait, bon, ça a été gagné en straight sets, comme on dit en anglais, donc en 3 manches pour Djokovic et en 2 pour Osaka. Deux victoires, là, comme je l'ai dit, on pouvait pas demander mieux. Et ce que je retiens surtout de cette... surtout chez les hommes, là, à la fin du match, donc une fois que la partie s'est terminée et que les trophées ont été remis, Daniil Medvedev a pris le podium pour vraiment faire l'éloge de Novak Djokovic. Puis, tu sais, même s'il s'était fait, à proprement dit, démonter pendant la finale, il n'était pas un mauvais perdant. Il est allé là, il a raconté une anecdote de la première fois qu'il est allé pratiquer avec Djokovic. Et ça démontre juste à quel point le tennis, contrairement à d'autres sports, est un sport au sein duquel les athlètes se respectent tellement et peuvent complètement se faire dominer et quand même être en mesure de dire « ben ce qu'il a fait, c'est vraiment beau, c'est parfait ». J'ai trouvé que c'est un très beau moment. Et ben quoi dire d'autre là, à part félicitations à Novak Djokovic et Naomi Osaka pour ces beaux parcours.
J'ai l'impression, Johan, tu me corrigeras, que cette espèce de respect-là qu'on voit au tennis est quand même assez propre au sport individuel, surtout où deux personnes doivent s'affronter. Tu sais, mettons, le golf est un sport individuel. Je ne sais pas s'il y a exactement ce respect-là, mais c'est quelque chose que je peux ressentir également dans les sports de combat, où je pense que de reconnaître la discipline de l'autre personne, je pense que c'est là qu'il se trouve ce respect-là.
Ben, c'est exactement ça. C'est tu le sais ce que l'autre fait. Tu le sais, tu connais les efforts qu'il doit mettre. Tu sais qu'est-ce qu'il fait pour être aussi bon que ça. Quand tu as perdu, c'est parce que l'autre a été meilleur que toi. Mm-hmm. Tu n'as pas le choix d'être d'accord avec ça parce qu'il n'y a aucune autre raison pour laquelle tu as perdu. Ton adversaire a été meilleur que toi. Il a été meilleur que toi dans ce match-là. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que toi ever total, mais dans ce match-là, tu es forcé de reconnaître qu'il a joué une meilleure partie que toi, puis c'est pour ça que tu as perdu. Et ça, ben, les joueurs et les joueuses de tennis le font très bien.
Yoann, mm-hmm. À quoi on peut s'attendre? C'est quoi le prochain tournoi de tennis qui s'en vient, un tournoi majeur ou un 1000, je ne sais pas là?
Bon, écoute, pour l'instant, chez les hommes, c'est un petit peu plus tranquille. Chez les femmes, on a un tournoi à Adélaïde, là, un dernier tournoi pour la saison d'Australie qui débute là, aujourd'hui, en fait. C'est un petit tournoi, mais qui a quand même quelques bonnes têtes de série qui seront là. Ashleigh Barty, notamment, la numéro 1 mondiale qui participe à ce tournoi-là. Sinon, ben les prochains tournois majeurs, c'est dans longtemps, là. Donc, on n'est vraiment pas là tout de suite. Je dirais le prochain tournoi qu'on va surveiller là, sérieusement, c'est écoute, c'est dans longtemps là, pour le Grand Prix les internationaux d'Australie ont été là, sont toujours le tournoi qui lance la saison, mais après ça, il y a toujours une espèce de décalage parce qu'on a encore l'hiver dans certains endroits du monde où on joue généralement beaucoup au tennis. Donc, on est quand même limité dans les endroits où on peut aller jouer. Écoute, le prochain tournoi Masters 1000, si je me fie au calendrier, c'est le tournoi de Miami qui va avoir lieu le 24 mars. Donc, okay. On est dans un mois encore. Mm-hmm. Là, donc, pour l'ATP, il y a un bon break là, d'ici le prochain gros tournoi.
D'accord. Thomas, il y a des matchs de hockey qui se sont joués sous un paysage paradisiaque, ma foi. Peux-tu nous en parler un petit peu plus?
Oui, en effet, il y a eu deux matchs en fin de semaine de la Ligue nationale au Lac Tahoe. Ceux qui ne savent pas c'est où, c'est à la frontière entre Nevada et la Californie. Le paysage de ce match-là était vraiment beau. Par contre, ça a donné lieu à quelques ennuis techniques, disons. Samedi, t'as eu l'avalanche avec des très beaux chandails des Nordiques qui ont battu les Golden Knights 3-2 dans un match assez mouvementé. En effet, après la première période, le match a dû être arrêté à cause que la glace est en très mauvaise condition. Il y a eu plusieurs chutes au cours de la période. Je sais pas si vous avez vu les gars, mais ça tombait comme des dominos. Le match a été repris à minuit heure de l'Est ou à 8 heures plus tard. Donc ça doit être assez difficile pour les joueurs de se garder, pardonnez-moi l'expression, mais en game shape entre-temps. Dans ce match-là, on peut saluer la performance de Nathan MacKinnon avec un but, deux passes, et de Mikko Rantanen avec deux passes, ainsi que notre Québécois Samuel Girard qui a compté le premier but. Dans la partie de hier, dimanche, Boston a battu Philadelphie 7-3 dans un match qui doit être repoussé à 7 heures pour éviter le gros soleil pour pas qu'il y ait les mêmes problèmes que la veille. Dans ce match-là également, j'ai eu une très bonne performance pour mon pool avec 3 buts de David Pastrnak. Également, Brad Marchand qui a eu 2 passes. Et dans la défaite, James Van Riemsdyk continue sa saison surprise, disons, avec 1 but et 2 passes. Le match a été retardé de 20 minutes dimanche à cause que le soleil reflétait trop sur la glace et c'était difficile pour les joueurs de voir. Moi, j'ai une question pour vous, les gars. Pensez-vous que la LNH, avec les problèmes techniques, a eu l'air complètement fou?
Non. Non, parce que c'est des problèmes de météo. T'sais, oui, tu devais t'attendre à ce que le soleil frappe fort, mais en même temps, si ça avait été nuageux, ben, il n'y en aurait pas eu de problème. Là. Donc, ce sont des éléments qui sont un petit peu en dehors du contrôle de la Ligue nationale qui sont venus affecter ça. Là. Je pense qu'ils n'ont pas eu l'air fou. Ils ont essayé quelque chose, puis malgré le fait que la partie a dû être interrompue, ben ça a été un immense succès quand même. Là. Je pense que les joueurs ont énormément apprécié et clairement, ben les partisans aussi ont apprécié. Là. Donc, c'est difficile de dire que la Ligue nationale a eu l'air fou dans ces circonstances-là.
Ben, il était quand même au Nevada. Là. Tu sais, dans le sens où ça s'est déjà fait des matchs dehors, c'était déjà été pas beau parce que, bon, à cause de la neige ou à cause de X raison, mais il était au Nevada, ou je ne sais pas exactement, il était où, là, ou en Californie. Là. Je pense que de prévoir le soleil, ça aurait peut-être été une bonne idée. Là. Tu sais, dans le sens où je comprends, avoir l'air fou, je ne sais pas à quel... Tu sais, je pense que je me situe un peu entre les deux, là, dans le sens où ça aurait pas été prévu, ça aurait pas été fait ailleurs. C'est sûr que oui, le paysage est très beau, mais tu peux pas tu peux pas prévoir quelque chose en croisant les doigts et que les chances soient 50-50. Tu comprends?
Non, mais ils ont pris une chance que le soleil soit pas si fort, parce que ça aurait été facile de partir le match plus tard. Mmh. Ils ont pris une chance pour, tu sais, justement, avoir ces photos-là qui allaient circuler sur les réseaux sociaux avec le beau décor en arrière, les montagnes, le lac, le soleil. Ils les ont eus pendant une période. Mmh. Ça a recouté ça.
PL, est-ce que tu as suivi un peu ce dossier-là?
Ouais. Oui, ben j'avais écouté la première période avant que ça l'arrête, puis le soir, j'ai fait d'autres choses. Mais moi, je tiens à dire, je leur lève mon chapeau. Tu sais, honnêtement, t'es en pandémie, t'as déjà plein de matchs qui sont déplacés ou retardés dans la saison. À la limite, si ça fonctionne pas, ce sera un échec, mais tu peux toujours reprendre ce match-là plus tard. Et puis, bon, Ça s'est passé, ça, il y a eu des complications, mais au final, comme Johan l'a dit si bien, c'était hors du contrôle de la Ligue. Donc, on peut pas contrôler la météo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'ajuste. Puis voilà, la Ligue n'était pas à l'abri de ça. Puis elle s'est très bien ajustée dans le scénario.
La seule personne qui va peut-être se plaindre là, de ce qui s'est passé en fin de semaine, c'est Mark Stone qui, après la première période du match entre les Golden Knights et l'Avalanche, était en punition. En fait, il y avait une punition de 4 minutes qui ne s'est pas terminée. Donc, techniquement, Mark Stone a été dans la boîte des punitions pendant 8 heures de temps.
Ouais, mais... Oui, mais non, mais il est quitté.
Il pourrait, c'est pas comme ça que ça marche, mais il pourrait se faire créditer de la plus longue pénalité de l'histoire de la Ligue nationale.
Effectivement. J'imagine juste Mark Stone qui reste assis sur le banc des punitions pendant 8 heures de temps, avoir fret un peu.
Ah oui, c'est ça. Ben, au moins, il se fait griller, là. Il enlève son casque, puis
c'est ça.
Un bon titan.
Hey, regarde, il y en a qui étaient en bas, ils étaient là sur des kayaks à côté. Ah, là. Nice. Clairement, c'était pas si pire.
Très cool. Petite parenthèse UFC, je veux parler du combattant québécois Eman Zahabi qui jouait sa job pas mal samedi contre Draco Rodriguez, quel nom, à l'UFC Fight Night Blades versus Lewis. J'avais trouvé que Eman partait un peu son combat de manière tranquille, mais après 3 minutes 5 secondes, il a mis KO d'une droite, je crois, comme on dit, right on the button, direct sur le bon bouton, et a mis son adversaire KO. Donc, belle performance à soirée. Il encaisse un bonus de 50 000 $ sur cette opération. Donc, très bien joué de la part du Québécois Eman Zahabi, qui est le frère de Firas Zahabi, qui est l'entraîneur principal du Tristar Gym, où s'entraîne notamment Georges Saint-Pierre et Olivier Ouimercier. Donc, belle opération. Avec deux défaites de suite, une troisième aurait été quand même assurément fatale pour Zahabi. Mais il s'en sort avec la victoire et on le félicite. Puis on est bien content pour lui et en espérant qu'il continue, qu'il poursuive sur cette lancée. Pierre-Luc, avec la petite pandémie, là, la petite grippe qui fait rage ici et là, et surtout en Europe, on pense à relocaliser les parties de l'Euro 2020 qui va se jouer en 2021.
Ouais, donc le Royaume... Pardon, ça a sorti tout croche, on dirait que j'ai eu un beau voice crack là-dessus. On recommence. Le Royaume-Uni propose d'accueillir tous les matchs de l'Euro 2020 cet été, alors que les partisans là-bas pourraient faire un retour dans les stades dès le mois de mai. Et puis, évidemment, ça faciliterait beaucoup l'organisation de l'événement de soccer européen. Normalement, c'est 12 villes européennes qui sont réparties dans plusieurs pays qui doivent accueillir les rencontres de soccer. Puis, dans le fond, la pandémie va énormément compliquer la tâche parce que, bon, il y a certaines restrictions sanitaires, il y a certains déplacements qui sont pas permis. Donc, ça va vraiment compliquer tout ça. Et puis, bref, il y a un certain travail qui va devoir être fait, puis comme une mise, vraiment un réveil immédiat de l'organisation pour savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Parce que la compétition doit se tenir du 11 juin au 11 juillet prochain. Et puis, bon, elle a déjà été reportée d'un an. Là. Ça devait se passer l'année passée là, en raison... ça a été reporté à cause de la COVID-19, là, comme tout le monde le sait. Ceci étant dit, il y a le premier ministre britannique, Boris Johnson, qui veut déconfiner l'Angleterre prudemment. Et puis, il espère quand même obtenir un retour à la quasi-normale d'ici le début de l'été. Par contre, la pandémie est loin d'être terminée, puis la situation pourrait vraiment empirer avec les variants du virus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on amène tous les matchs en Angleterre ou est-ce qu'on les garde séparés puis on espère que ça se passe bien dans chaque pays? Mais il y a une solution qui est embarquée là-dedans qui pourrait très bien fonctionner, mais ça va avoir un petit peu... c'est pas précisément la solution que veut l'Euro. Eh bien, ça serait d'aller apporter les matchs à Israël parce que, comme on sait, Israël, c'est le pays qui vaccine le mieux. Ils vaccinent à un rythme effréné. Là, c'est absolument incroyable ce qu'ils font avec la vaccination contre la COVID-19. Donc, ils se proposent d'accueillir les matchs de soccer. Puis c'est ça, la vaccination va tellement bien que le premier ministre Benjamin Netanyahou, il a assuré, donc c'était au mois de janvier, si je ne me trompe pas, au début février, que son pays se sortirait du cauchemar du coronavirus d'ici la fin de mars. Donc, ça serait une très bonne solution d'envoyer les matchs là-bas. Par contre, Boris Johnson croit pouvoir déconfiner graduellement et puis normalement, on devrait s'attendre à revoir des partisans de soccer dans les stades d'ici le mois de mai. Mais ça, c'est si tout va bien. Comme on le sait, il y a la fameuse question des variants. On a le variant britannique, puis on a le variant sud-africain aussi, là, qui est quand même à proximité là-bas. C'est sûr que le variant britannique est déjà là-bas, bien sûr. Mais donc, les variants sont encore plus contagieux. Donc, si ça devient hors de contrôle, eh bien, on n'aura pas le choix de déplacer les matchs ou peut-être d'annuler les événements. Là, c'est vraiment la solution qu'il y a. Mais évidemment, Israël, très objectivement, c'est la solution la plus adéquate parce que vraiment, le pays va se sortir de la COVID-19 très, très rapidement. C'est un petit pays, dans le fond, qui vaccine très, très bien. Donc, normalement, ça devrait aller à Israël, selon moi.
Sportivement, ce serait une catastrophe pour l'équipe nationale d'Angleterre. Ouais. Le tournoi est basically fait pour que ce soit l'Angleterre qui le gagne. Tout,
ben oui.
L'Angleterre joue tous ses matchs de groupe à Wembley, à Londres. Mm-hmm. Et toutes les demi-finales et les finales sont à Londres. Tout était vraiment fait pour que le tournoi se passe là. Ça va être particulier. Les installations, ben en Angleterre, ils les ont. Est-ce qu'à Israël, on a assez d'installations pour accueillir tout l'euro? C'est peut-être ça aussi la question. C'est vrai que bon, dans ce territoire-là, dans ce pays-là, oui, on peut être en mesure d'accueillir, mais jouer dans des stades à 5 000, 10 000 places, je sais pas si c'est l'idéal. Alors qu'en Angleterre, si tu amènes toutes les équipes-là, ben, t'as pas seulement Wembley, t'as les Old Trafford, t'as les Stamford Bridge, t'as les Etihad Stadium qui peuvent accueillir ces personnes-là. Mais est-ce que la situation de la COVID va être la même rendue au mois de juin? Ben, c'est peut-être un peu ça la grosse question.
Mm-hmm.
Ça va être à suivre, assurément, parce qu'on sait pas
qu'est-ce qui se passe aussi. Tu sais, normalement, c'est un événement qui rassemble énormément de partisans de chaque pays. Je doute fortement que chaque pays va pouvoir voyager d'un pays à l'autre pour suivre son équipe. Même chose à Israël. Je doute qu'Israël laisse rentrer des millions et des millions de partisans pour suivre leur équipe. Il y a des grosses décisions qui vont s'en venir du côté de l'euro. Donc oui, comme tu le dis, là, c'est un dossier qui va être à suivre obligatoirement. Là, c'est même préoccupant. Mm-hmm.
On a déjà commencé à déplacer des matchs de Ligue des champions, puis on va en parler peut-être un petit peu plus tard, là, des matchs de Ligue des champions qui ne sont même pas au domicile des équipes où ça devrait l'être. Donc oui, ça commence à être compliqué. Johan,
hey.
On a le 1000e match d'un joueur qu'on devrait peut-être de moins en moins appeler de kid.
Ouais, effectivement, là, quand tu es à 1000 matchs de jouer dans la Ligue nationale et que tu es rendu à 33 ans, c'est peut-être le temps qu'on arrête de t'appeler Sid the Kid. Donc Sidney Crosby là, qui disputait samedi dernier son 1000e match en carrière dans la Ligue nationale. Un exploit là, qui est quand même, c'est assez marquant pour les joueurs de disputer 1000 matchs. C'est un plateau qui est très intéressant à atteindre. Et dans le cas de Crosby, ben ça vient plus tard que ce qu'on aurait voulu. On le sait, il a été extrêmement ralenti par les blessures depuis plusieurs années. Là, il y a seulement une saison complète depuis 2012. Là, donc, c'est ça qui est ça dans son cas. Mm-hmm. Et il a bien fait là, pour son 1000e match. Là, premièrement, ramasser deux passes dans une victoire de 3-2 face aux Islanders de New York. Mais c'est surtout quand on regarde 1000 matchs pour Sidney Crosby, c'est 468 buts, 810 passes pour 1278 points.
Incroyable.
On parle beaucoup de Connor McDavid dernièrement qui a amassé son 500e point dans la Ligue nationale et on parle beaucoup de Connor McDavid en général parce qu'il est donc bon, il est donc rapide, il est donc incroyable, mais il l'a fait exactement en autant de matchs que Sidney Crosby. J'ai l'impression que en raison de ses blessures, en raison du fait que les Pingouins sont peut-être moins bons qu'ils l'étaient là, depuis 2 ans, on oublie à quel point Sidney Crosby est bon. On oublie à quel point il a été absolument incroyable de la fin des années 2000 jusqu'au milieu des années 2010, à quel point il était le meilleur joueur sur la planète et c'était même pas proche. On oublie un petit peu Sidney Crosby parce qu'il y a ces jeunes joueurs-là qui sont vraiment spectaculaires, des Connor McDavid, des Austin Matthews, des Mitch Marner, ces joueurs-là qui prennent de plus en plus de place. Mais Sidney Crosby est quand même à 15 points en 16 matchs cette saison. C'est vraiment pas rien. Et la dernière fois qu'il a été sous la barre des 1 point par match, savez-vous c'est quand?
Je regarde ses statistiques puis je me dis qu'il n'y a aucune saison où c'est arrivé. Là.
Et voilà, n'est jamais arrivé depuis qu'il a rejoint les rangs juniors qu'il a été en deçà d'un point par match au sein d'une même saison.
Wow.
C'est absolument incroyable. Mm-hmm. Et là, ça lance certains débats. Où se classe Sidney Crosby parmi les meilleurs de l'histoire? Parce que le hockey a évolué, c'est impossible qu'il aille battre les records de points de Wayne Gretzky. C'est impossible qu'il aille battre ce genre de record-là. Mais il a été tellement bon dans cette ère du hockey-là. Il se classe où parmi les plus grands? C'est la question à 100 000 $. Si j'avais personnellement à m'avancer là-dessus, je disais, il est jamais... Je voyais certaines vidéos, certains articles, je pense que c'était TSN qui disait top 5 dans l'histoire. Je suis vraiment pas prêt à le classer dans le top 5 de l'histoire. Mais est-ce qu'il a sa place dans le top 10? Ben ça, c'est une discussion très intéressante. Et j'aurais tendance à dire que oui, c'est vraiment incroyable. Puis on est en train de vraiment un petit peu de l'oublier, Sidney Crosby, parce qu'il vieillit, parce que c'est plus le kid. Mais c'est encore peut-être le joueur qui a le plus d'influence, là, qui donne le plus envie aux jeunes d'apprendre et de se mettre à jouer au hockey, surtout aux États-Unis, même si les Canadiens.
Mm-hmm. Mais tu sais, à 33 ans, un bonhomme qui est hyper charismatique aussi. Je pense que oui, tu sais, avec les comme tu l'as dit, là, les Austin Matthews, les Connor McDavid aussi qui sont là, je pense qu'on devient un peu blasé de la vieille garde, là, en fait, de cette génération-là de joueurs. Puis, tu sais, juste prendre un petit truc très anecdotique, juste dans les pools de hockey qu'on a choisi, des noms comme Crosby, des vieux noms que je mets en guillemets, ben c'est tout le temps moi qui est pogné parce que bon, je me suis fait un petit algorithme puis l'algorithme me disait de les prendre, mais pour ceux qui suivent peut-être un peu plus ça, on a tendance peut-être un peu à les snobber ces gros noms-là parce que bon, ils en ont fait tellement. Sidney Crosby, son palmarès, c'est tout simplement incroyable. Puis pas juste son palmarès dans la Ligue nationale. Il a gagné quoi? Il a gagné 3 Coupes Stanley? 3 4 Coupes Stanley? A fini 2 fois meilleur pointeur de la Ligue. Comme tu l'as dit, a maintenu un niveau. Tu sais, a pas été... C'est ça, justement. Il a peut-être été juste 2 fois meilleur pointeur de la Ligue. C'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que on peut maintenant le snobber un peu, mais a tout le temps maintenu un niveau jeu incroyable. Puis je parle même pas de son niveau avec l'équipe nationale canadienne, notamment ses deux Jeux olympiques qui a remporté notamment celle-là de 2010 avec le fameux but en or. On peut parler, tu sais, on peut poser la question, oui, est-ce qu'à votre avis, Sidney Crosby entre dans le top 10? Thomas, je te pose la question de l'histoire du hockey.
Ah, moi, je dirais top 10 facilement. J'irais même jusqu'à top 5, 5-6e. Honnêtement, comme que tu viens de dire, Crosby, il a une carrière phénoménale présentement. Ah, si tu rajoutes en plus son travail avec l'équipe canadienne, ça le met facilement à top 10.
Au niveau du palmarès, je trouve ça assez fou. Pierre-Luc?
Sans aucun doute, c'est dans le top 10. Sans aucun doute. Il y a tellement un jeu de main incroyable, des mains habiles et il est tellement agile avec la rondelle. C'est absolument incroyable. Son tir est précis, ses passes sont précises. Il peut faire des buts où il n'y a pas de but. Je me souviens, il y a quelques années, quand il avait parti la mode de frapper les rondelles à l'air, c'était tout nouveau. C'est vraiment lui qui a mis ça sur l'espèce de trend dans la Ligue nationale. Maintenant, on le voit de plus en plus. Sidney Crosby, c'est de loin un des leaders de la Ligue nationale. Puis vraiment, quand on parle de Crosby, on parle vraiment de, selon moi, le GOAT, la chèvre 2010 à 2020 dans la Ligue nationale. Oui, on a eu les Connor McDavid, Austin Matthews qui sont arrivés, mais si on parle de quelqu'un qui a commencé, qui était là depuis 2010 jusqu'à 2020, le meilleur joueur, selon moi, de cette période-là a été de loin Sidney Crosby.
Crosby me fait énormément penser à Roger Federer au tennis, dans le sens où c'est pas le joueur le plus spectaculaire, mais techniquement, et là, je veux pas dire genre d'un point de vue, d'une technicalité. Non, c'est au niveau des habiletés techniques, il est textbook, comme on dit en anglais. C'est ça. Techniquement, c'est le meilleur joueur au monde. Il est tellement gracieux sur la patinoire comme Federer l'est sur le terrain. C'est un gars que tu regardes jouer, puis c'est juste comme... Mais il fait tout à la perfection. Sidney Crosby, c'est un de ces joueurs-là qui n'a pas de faille dans son jeu.
Ah, il est hallucinant. Tout un joueur. Ça va être le 87 va être tiré rapidement, je crois, à Pittsburgh.
Et moi,
peut-être
j'ai
même à travers la ligue.
Non, ça, non.
Non?
Ben, écoute.
Je sais pas.
Genre, je vais dire une affaire là-dessus. Si tu retires le 87, t'expliques, tu peux, tu sais, comment est-ce que tu expliques que tu retires pas le 66?
Je suis très d'accord avec ça.
Mais moi, d'après moi, par contre, Sidney Crosby n'aura pas à attendre les trois années minimum là, pour être éligible au Temple de la renommée. Là, dès qu'il prend sa retraite, il va être intronisé.
Oui, 100%. C'est une question de temps. Thomas, on a été servi en Ligue des champions, servi en but dans les matchs qui ont été joués là, mardi et mercredi, dans le match aller des huitièmes de finale, je crois, de la Ligue des champions de l'UEFA. Est-ce que tu veux nous débriefer ça un petit peu?
Oui, ben c'était le retour tant attendu de la Ligue des champions qui commençait avec la ronde des 16 cette semaine. Pour commencer, mardi, on a eu droit à une victoire de 2-0 de Liverpool face au RB Leipzig, au Red Bull Leipzig. Comme que tu disais avec Pierre-Luc, le match était supposé être à Liverpool, mais à cause que tes problèmes de voyagement avec l'Angleterre, c'était en Hongrie, si je me trompe pas. Ouais. Donc, c'était le début de Salah et Mané. Barcelone a continué sa glissade cette année. Vraiment, une année à oublier pour Barcelone. Eux qui ont perdu 4-1 face au PSG. Un triplé de Kylian Mbappé. Mbappé qui connaît une année vraiment excellente. Ça va être à surveiller parce que son contrat termine cet été. Donc, faudra voir s'il va prolonger au PSG ou s'il va signer ailleurs. Par contre, cette défaite de 4-1, est-ce que ça pourrait c'était une autre remontada comme qu'on a eu trois il y a 4 ans face au PSG?
Je vais répondre à ta question. Neymar est de quel côté?
C'est ça.
Ouais. On a notre réponse.
Exactement. Mercredi, Dortmund a remporté la partie 3-2 face au FC Séville sur un doublé de Haaland. De Haaland, effectivement. Alors que la surprise de cette semaine, selon moi, Porto a remporté 2-1 face à la Juventus. Vraiment un résultat qu'on ne s'attendait pas. Donc, ce sera intéressant de voir la suite. Cette semaine, c'est la deuxième partie des matchs aller de la ronde des 16 avec Atletico qui va jouer contre Chelsea, Lazio qui va jouer contre Bayern Munich, Atalanta qui va jouer contre le Real Madrid et Borussia Gladbach qui va jouer contre Manchester City. Donc, ça sera à écouter très certainement.
On se fait-tu on choisit rapidement, si je te dis Atletico-Chelsea, qui, pas nécessairement le match, mais qui va passer là, au terme de la rencontre aller-retour entre les deux équipes?
Personnellement, je m'attends à ce qu'Atletico passe. Chelsea, ça commence à se replacer, mais je trouve qu'ils sont pas encore assez au niveau de l'Atletico, qui vraiment, cette année, domine complètement.
Pierre-Luc?
Atletico aussi. Chelsea commence à débloquer un petit peu, mais contre un Atlético qui est quand même très solide défensivement, puis au milieu de terrain, je ne vois pas comment Chelsea peut passer. Aaron me surprend quand même.
Ouais. J'ai hâte de voir pour Chelsea, moi aussi, mais je pense que l'Atletico, c'est un truck live, là. Je vois pas, ouais, c'est ça.
Atletico, ça, c'est un truck live, ah, j'aime ça.
Mais ça a pas perdu, Chelsea a pas perdu de pays, mais c'est pas chic. Donc, ouais, c'est ça. Johan, Atletico, Chelsea. Moi, ok, je prends des notes, je veux juste savoir qu'est-ce qu'Yvan y dit. Ok, excusez. Ah ouais, je veux vivre ça.
Ben, Johan. Écoute, bon. Écoute, tu sais, il y a deux points là-dedans. Un, si je fais une prédiction, je vais avoir l'air épais, premièrement, puis on va pas se faire prendre au sérieux parce que je connais absolument rien, puis j'ai pas d'affaire à parler de ça. Mais juste pour le mime, juste parce que,
oui, c'est ce qui est
je veux dire, tu sais, Chelsea, c'est une équipe que je connais quand même bien, qui a toujours, j'ai toujours Atlético, et j'en ai moi entendu parler quand j'étais jeune. Et Chelsea, je connaissais plus ça. Je vais y aller avec une victoire de Chelsea qui va vous surprendre. Là. Check 2-1.
2-1?
Facile de même.
Mais on parle plus de l'aller-retour. Donc, toi, tu dis que bon, ça va être 2-1 demain, ouais. Mais ça va être Chelsea qui va passer quand même en tout.
Très ça.
Parfait.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ça.
Mais en fait, oui, ben on va dire à ceux qui suivent peut-être un peu moins le soccer, c'est à cette statue de la Ligue des Champions, c'est un match, c'est des matchs aller-retour. Donc, on joue deux rencontres. Et c'est le total des buts qui détermine le...
Puis là, demain c'est le premier?
C'est le premier.
Bon, OK. Chelsea va gagner demain 2-1.
Parfait.
Et va... Mais après ça, qu'est-ce qui va arriver overall dans le match retour?
Je sais pas. Ton ressort, là.
Ça, je me prononce pas là-dessus.
OK, c'est bon. C'est au moins ça qu'on va prendre. Sinon, Lazio-Bayern. Ouais, je pense que les trois autres, là, j'ai pas beaucoup de questions qui se posent, là, mais on va quand même, Thomas, Lazio ou Bayern?
Honnêtement, je pense que j'aurais dû dire épais, je prendrais de la Lazio, honnêtement. Bayern, même si on fait surprendre ça, en fin de semaine contre Francfort, devrait, je pense, remporter la Ligue des Champions cette année. J'y vais avec ma prédiction tout de suite. Vraiment, comme tu sais, avec l'Atletico, Bayern, c'est un troc.
Oui. Bayern, je vois pas beaucoup d'équipes qui peuvent arrêter cette équipe-là également. Pierre-Luc?
La Lazio est quand même surprenante là, depuis l'année passée, mais je ne peux pas penser que Bayern ne les batte pas. Et comme Thomas, je ne suis pas prêt à m'avancer comme je l'avais fait l'année passée pour dire qu'il allait gagner la Ligue des Champions. Mais le Bayern va se rendre définitivement au moins en quart ou en demi-finale si ce n'est pas la grande finale.
Mm-hmm. Oui. Johan?
Ben écoute, il y a des limites à être niaiseux dans ce qu'on dit. Là, je vais prendre pour le Bayern dans celle-là.
Mais Chelsea, c'est pas un truc niaiseux. Hein. On s'entend que Chelsea peut quand même aller battre l'Atlético, mais c'est risqué. Sinon, dans les prochaines rencontres, pas beaucoup de surprises. Ben, quoi que l'Atalanta, on parle d'équipe italienne là, qui peuvent être des emmerdeurs de gros noms. L'Atalanta en est un, assurément, contre le Real Madrid, Thomas.
Ben, je vais y aller avec le Real, puisque la logique me dit, mais effectivement, Atalanta a le don de trouver des façons de gagner. Donc, effectivement. Et le Real, ils sont une pente descendante, eux aussi. Donc, on sait jamais, mais je m'attends à une victoire du Real quand même.
Pierre-Luc?
Mm-hmm. Je vais y aller avec l'inverse de ce que tu dis, parce que le Real est sur une pente descendante et ça va pas très bien au Real depuis quelques années, notamment depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Eh ben, je vais y aller avec Atalanta parce que c'est une machine offensive et puis, bien que Sergio Ramos est un excellent défenseur, Atalanta marque toujours plein de buts et c'est quand même un gros pari que je prends, mais je vais y aller avec Atalanta qui va battre le Real Madrid.
Johan, je sais que tu n'aimes pas ça, je te le demande, mais je fais quand même quelque chose à ma
mesure. Honnêtement, sérieusement, parce que je regarde ça, puis là, en effet, le Atalanta est sur une bonne lancée. Real Madrid, poursuit d'aussi loin que je suis ça. Je sais que c'est pas toujours rose-rose dans les derniers jours pour le Real Madrid. Pour ça, je vais y aller avec Atalanta.
Oh. Parfait. Quand même, gros move, là, de l'Atalanta. Ça se peut. Ça serait une énorme surprise, mais le Real est capable de se faire caca dessus de temps en temps. Et Mogdan Glabak contre... Bon, je n'ai même pas le goût d'en parler de ça. Contre Manchester City, demain.
Ben, je pense que c'est un... Comme qu'on dit, c'est un no-brainer. Ouais. City qui est présentement premier dans la PL. C'était Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal qui a dit que c'était la meilleure équipe au monde en fin de semaine. Donc, honnêtement, je suis de son avis et City devrait passer avec assez de facilité.
Mm-hmm. Pierre-Luc.
Moi, je vais y aller en disant que Manchester City n'a pas payé 30 millions pour réintégrer la Champions League pour rien. Donc, mon choix est assez simple. City va passer contre Mönchen Gladbach. Je sais jamais comment le prononcer. Bref, l'équipe allemande de Borussia Gladbach.
Ouais, City avec son amende qui a réussi à jouer avec des champions. Et Johan, finalement, Mönchen Gladbach contre Manchester City.
Ben, ça va être une victoire de Manchester City, même si j'espère les voir perdre.
Ah, mon Dieu, moi, oui.
Juste pour qu'ils soient dans un mauvais état d'esprit samedi quand ils vont affronter West Ham.
J'ai vraiment peur pour mon 20$, Ewan, parce que là, je vois pas beaucoup d'autres outcomes que là, peut-être la 7e position, mais West Ham est tellement bien parti en ce moment.
C'est une espèce de saison de West Ham, je comprends incroyable. Pas du tout ce qui se passe, mais ça va très très bien. 4e position pour les hommes de David Moyes, mais je comprends pas. Puis là, plus à Aston Villa qui va de moins en moins bien. West Ham peut aller gratter le top 4. Écoute, Johan, t'es peut-être une main magique. Là. Tout ce que tu touches se transforme en
tant mort, que ça n'a pas rapport au hockey, les prédictions que je fais, des fois, sont pas pires.
Oui, ouais, c'est ça. Son pool ne voit pas très bien, soyons honnêtes.
Non, non, ça va vraiment pas bien.
Voulez-vous qu'on en parle du pool ou j'ai...
On peut y aller avec Thomas qui va parler d'une des raisons pour laquelle mon pool va aller encore moins bien dans les prochaines semaines. Là.
Excellent lien, mon Johan, vas-y.
il y a eu une bombe qui est arrivée ce matin, lundi matin, pour ceux qui nous écoutent en différé. Artemi Panarin a annoncé qu'il va quitter temporairement les Rangers. Pour vous donner un peu l'histoire qui est sortie, son ancien entraîneur de la KHL, Andrei Nazarov, a dit à un tabloïde russe qu'il aurait battu une femme de 18 ans en Lettonie après un match il y a 10 ans et que cette histoire n'a jamais sorti parce qu'il y aurait eu des pots de vin. Par contre, il y a plusieurs sources qui pensent que ce serait un coup politique contre lui de la part du président Poutine. Là, je tiens juste à dire qu'il n'y a rien de confirmé, c'est seulement des suspicions. Mais par contre, il a été très critique envers le gouvernement russe et on sait que ce qui se passe là-bas, c'est rarement clair. Donc, c'est ça. D'ailleurs, tu as l'entraîneur qui a dit que la raison pourquoi il en parle aujourd'hui, c'est à cause des critiques de Panarin envers le gouvernement. Donc, c'est un dossier à suivre. Tu as les Rangers qui le soutiennent à 100%. Donc, ça va être un dossier extrêmement, extrêmement important à surveiller. Présentement, il y a 18 points à sa fiche avec les Rangers. Donc, ça va être un dossier extrêmement important à surveiller dans les prochaines semaines.
Les Rangers de New York doivent tellement avoir hâte qu'on parle de hockey. Parce que là, ça s'accumule, puis c'est pas le fun. Puis en plus que Panarin, on parle pas d'un joueur qui est sur le taxi squad, qui est un joueur de quatrième trio, là, comme tu l'as dit, c'est 18 points en ça peut être quelque chose comme 18 matchs également. Là. C'est ça, là. Faudrait que ça se règle rapidement si ça s'avère être... En fait, si c'est faux, bon, parce que si on réussit à prouver ça, là, je donne pas très cher de la peau de notre ami Panarin en Amérique, son contrat en Amérique du Nord, là, ça risque d'être extrêmement compliqué de son côté. Puis j'espère pour lui, je retournerai pas en Russie. Donc j'espère qu'il va réussir à prouver le contraire parce que ça va très très mal de son côté. Pierre-Luc, rapidement, il y a un tournoi de volleyball présentement. J'avais pas entendu parler de cette histoire-là. Un tournoi de volleyball présentement qui se déroule au Qatar et il y a des petites complications, des petits règlements qui sèment la controverse.
Ouais, c'est ça. C'est sorti lundi. Là, fait que c'est pour ça que tu n'en as peut-être pas entendu parler. Puis je l'ai récupéré en après-midi, cette nouvelle-là. J'ai juste quelques lignes là-dessus, donc ça va être quand même assez rapidement. Mais c'est vraiment une controverse qui s'installe au tournoi de beach volley du Qatar parce que, bon, le Qatar est le pays hôte et puis il invite les joueurs à porter des pantalons et un chandail long plutôt que le maillot de bain afin de respecter la culture et les traditions du Qatar. Donc, Carla Bogler et Julia Soudé de l'équipe allemande, ben évidemment, elles critiquent la demande du gouvernement parce que c'est la première fois qu'elles voient un pays hôte imposer des règlements à ce sujet. Et puis aussi, bon, ben comme on le sait, il fait très chaud au Qatar, là, puis c'est des conditions extrêmes pour pratiquer le sport. Puis ça fait quand même plusieurs fois là, qu'on voit des événements au Qatar. Puis la seule chose qu'on entend au premier tour, c'est toujours « il fait tellement chaud là-bas ». Fait que là, on est en train de leur dire à ces femmes-là, vous ne pouvez pas porter de bikini pour jouer au beach volley, qui est vraiment l'uniforme de travail comme Bogler et Soudé le décrivent. Fait que là, travailler en pantalon et en chandail à manches longues, ça va être tellement compliqué parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc, ça fait une certaine controverse là-dedans. Puis c'est justement ça que les joueurs allemandes réprimandent, c'est qu'on les empêche de porter leur uniforme de travail, puis ça va les empêcher de travailler convenablement, selon elles.
Au-delà de l'argument de la température, là, tu sais, il y a tout un, tout un dossier sur le code vestimentaire qui est bon, à quel point le Qatar doit aller se mettre le nez là-dedans. Là, un gros dossier sociologique dans lequel on s'embarquera pas, mais quand même, merci beaucoup Pierre-Luc de nous en avoir fait mention.
Ouais, je vais suivre ça quand même de très près parce que je trouve que c'est quand même préoccupant de savoir. On fait un tournoi de volleyball, mais vous le faites à nos règles. Honnêtement, c'est pas correct de faire ça. Là, fait que je regarde ça de très près.
Ouais, puis il y a eu quelque chose aussi avec la FIFA et le Qatar également, là, une remise de médailles qui aurait aussi mal viré là, il y a, je pense, une semaine ou deux là, également en lien avec des athlètes féminines et des dirigeants qataris, donc assez ordinaire de ce côté-là. On va terminer sur du curling. Je pense que c'est la première fois qu'on en parle à retour en force. C'est le tournoi des cœurs de curling. Et Johan, tu nous fais, t'es sur place et tu nous fais un compte-rendu, ma foi, merveilleux.
J'aimerais vraiment ça, être sur place, parce que Calgary, c'est une très belle place à être en ce moment. Non, je suis dans le confort de ma chambre à coucher, mais je vais vous parler quand même rapidement du tournoi des cœurs qui se déroule en ce moment, le tournoi des cœurs Scotties de curling, qui est essentiellement le championnat canadien féminin de curling, qui est donc le côté féminin du Brier, qui est le championnat canadien chez les hommes. Du côté du tournoi des cœurs, on surveille particulièrement, on surveille l'équipe du Québec, en fait, bien sûr, qui est représentée par une personne qu'on connaît très bien au sein du programme de journalisme à l'UQAM, Laurie Saint-Georges, qui est une de nos collègues à l'université. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances. Et à date, ça se passe très bien pour l'équipe Québec, qui a une fiche de 2-1. La défaite survient contre l'équipe de Jennifer Jones, qui est peut-être la meilleure curleuse du Canada. Donc, c'est pas une trop grosse déception pour l'équipe Québec, qui est présentement en avance, là, parce qu'il y a un match qui joue présentement. Sont au huitième bout et mènent 8-5 sur l'équipe qui est essentiellement l'équipe Wild Card, donc qui est une des équipes là, qui n'a pas remporté son championnat provincial. Cette année, c'est un petit peu plus compliqué en raison de la COVID, mais essentiellement, c'est ça. C'est une équipe Wild Card qui est au premier rang du groupe B, là, qui a une fiche parfaite en ce moment de 3 victoires et aucune défaite. Donc, ça se positionne très bien présentement pour l'équipe Québec, qui pointe au quatrième rang, mais pourrait là, se voir passer dans les deux premières équipes s'ils continuent de remporter le match d'aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qu'on va surveiller de très près, là, pas juste parce qu'on connaît la personne qui est capitaine de l'équipe Québec, mais parce que ça reste intéressant. Puis au Canada, c'est un sport qui est quand même assez populaire. Aussi surprenant que ça puisse paraître, là, il y a plusieurs qui se plaignent que c'est un sport ennuyant à regarder, mais au Canada, on profite de ces deux événements-là et des Olympiques pour voir que le Canada, on n'est pas pire au curling, puis ça peut être assez divertissant à surveiller.
Mm-hmm. Ben oui, on suit ça avec intérêt. Merci beaucoup, Johan, de nous avoir en avoir fait mention, pardon, et de nous avoir fait un compte-rendu de ce qui se passait là-bas. C'est ce qui termine cet épisode de Retour en force. J'espère que vous avez apprécié nos discussions. J'aime vraiment cette réunion-là, là, même si bon, j'ai manqué le dernier mot. J'aime vraiment venir discuter avec vous de tout plein de sujets différents. Je m'appelle Étienne Moutier, j'étais avec Pierre-Luc Mongeon, Johan Carrière et Thomas Lafond. Et les amis, on se parle la semaine prochaine pour un autre épisode de Retour en force.